Bienvenue à toutes et à tous dans Le Meilleur des Mondes, l'émission de France Culture consacrée aux bouleversements suscités par le numérique et les nouvelles technologies. Et ce soir, on voyage vers la baie de San Francisco dans la Silicon Valley pour tenter de percer les mystères de son esprit. L'esprit au sens de ses spiritualités, ses religions et ses croyances qui se diffusent là où le monde de la tech se façonne. Comment cette bande de terre de 200 km² érige le travail et le progrès en valeur cardinale. En quoi sa population, peuplée majoritairement d'athées et d'agnostiques, est-elle un lieu spirituel? Comment le yoga et autres pratiques méditatives ont-elles été investies par les entreprises de la tech? Que représente le festival Burning Man qui chaque été investit le désert du Nevada où des dizaines de milliers de personnes partent en quête de transcendance? Sous LSD souvent, déjoue les codes sociaux et perpétue un esprit de la vallée issu de la contre-culture, mais qu'en reste-t-il aujourd'hui? Enfin, comment le transhumanisme a-t-il évolué? Quelles en sont ces nouvelles chapelles où l'humain tente de voir toujours plus loin en repoussant d'un peu plus près les frontières de la mort? Comme toujours, beaucoup de questions et trois invités ce soir pour y répondre. Blaise Mao, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le rédacteur en chef d'Ouzbek Erika, magazine partenaire de cette émission, et vous allez m'accompagner tout au long de ce meilleur des mondes sur les routes de la foi, tel le titre de votre dernier numéro, ou plutôt les routes de l'esprit de la Silicon Valley, en compagnie de Julie Monméja. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes docteur en civilisation américaine, chercheuse à Sorbonne Nouvelle et à l'Université Lyon 2. Vous pourrez revenir sur l'influence de la contre-culture et les origines psychédéliques de la Silicon Valley, tout en nous présentant un mouvement en vogue dans la vallée, celui du long-termisme qui ambitionne de sauver le monde. Voilà, c'est un vaste programme. Olivier Alexandre, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue chargé de recherche au CNRS, vous êtes passé par Stanford en tant que professeur temporaire et vous êtes l'auteur de La Tech quand la Silicon Valley refait le monde. C'est paru fin mars aux éditions du Seuil, fruit d'une longue infiltration au cœur de l'épicentre de la tech avec des centaines de témoignages. Vous pourrez revenir sur le profil sociologique des habitants de la vallée, leurs pratiques méditatives, leurs croyances actuelles, et vous pourrez également nous éclairer sur l'idée d'une technologie érigée comme religion de l'avenir. On programme également les nouvelles du meilleur des mondes, qui reviendra sur l'actualité de la semaine, et notre émission qui s'écoute en direct ou en podcast sur l'application Radio France et se regarde sur la chaîne Twitch de France Culture. Le meilleur des mondes, c'est parti.
Allez, je vous emmène sur la West Coast.
Palo Alto, c'est l'épicentre de la Silicon Valley.
Avec près de 20 000 startups, dont notamment près d'une centaine de licornes, hein, vous savez, ces pépites valorisées à plus d'un milliard de dollars comme Uber, Snapchat ou Airbnb, ce petit bout de territoire de 80 km de long est devenu en quelques décennies le berceau des nouvelles technologies.
Le truc, c'est qu'en 1967, on a vu une autre culture naître là-bas. Aux États-Unis, 1967, le LSD.
Hi, you listen to Beirut from Burning Man at Robot Heart 2000.
Gifted. Decommodification. Radical self-reliance. Radical self-expression.
La majorité des gens qui vont au Burning Man, c'est des gens qui sont quand même bien intégrés. On a un souhait de contre-culture intelligente. Que ce soit du geek à l'artiste, ou à la personne qui est capable de faire du yoga ou de la spiritualité.
They have meditation rooms in every single building of their corporate campus.
En gros, on vit sur place. Hein. Le but du jeu, c'est quand même de garder les gens au maximum au bureau et de les faire trimer beaucoup.
He's considering blowing up the deal.
What? Just because one of my CEOs is Christian?
It freaks people out in the valley.
Un extrait de cette série Silicon Valley. Blaise Mao, on va commencer avec vous qui a votre numéro sorti il y a quelques jours sur les routes de la foi inspirées, le sujet de cette émission. Vous évoquez évidemment dans vos pages la Silicon Valley, mais pas que. Pourquoi ce sujet, ça a été quoi? Un éclair divin qui vous a fait partir sur ces routes de la foi?
Non, c'était une envie 10 ans pile après avoir traité le sujet des nouveaux gourous autour d'un axe, d'un angle autour du bien-être, de l'émergence un peu de nouvelles renouveaux spirituels en Occident. On avait envie de s'intéresser non pas à en qui on croit ou en quoi on croit, mais plutôt à comment on croit. Aujourd'hui, et surtout comment le numérique, comment les outils qu'on utilise, que ce soit nos devices, nos appareils, ou alors la manière de circuler sur les plateformes, comment ces nouveaux usages numériques transforment notre rapport à la croyance. Ça peut concerner autant les monothéismes, On fait par exemple une infiltration dans un chat Discord avec des catholiques intégristes radicaux, très très intégristes, à lire dans le nouveau numéro, que des complotistes. Mm-hmm. On a beaucoup traité ici notamment la question de la théorie du complot. On a analysé un peu les circuits, les ramifications de la circulation des fausses informations sur nos réseaux, que ça soit Twitter, Telegram ou Discord. Et on avait envie aussi, évidemment, comment parler de technologie sans parler de Silicon Valley. C'est un sujet qu'on a beaucoup abordé aussi, évidemment, depuis 13 ans chez Uzbek Erika, mais l'aspect religieux nous semblait intéressant, notamment inspiré par le travail d'une sociologue des religions, qui s'appelle Caroline Chen, professeure à l'université de Berkeley, en Californie, et qui a publié l'année dernière un ouvrage qui n'est pas encore traduit en français, qui s'appelle Work, Pray, Code, hein, donc littéralement travail, prix et code. Et ce que nous dit donc Caroline Chen dans cet ouvrage, c'est que la Silicon Valley est en train de bâtir une authentique théocratie privée, elle parle d'une techtopie, et ce qu'elle démontre, ce qu'elle explique, c'est la manière dont la religion du travail dans la Silicon Valley, autour de la notion de productivité, s'est emparée en fait de différents leviers, notamment celui des spiritualités orientales, pour booster la productivité des travailleurs. Hein. Elle évoque le terme de technologie religieuse, elle nous parle d'un bouddhisme blanc, sans le décorum oriental, sans la portée politique, mais juste pour la maximisation du potentiel des employés.
On l'entendait effectivement dans le petit montage d'ouverture, de se dire que ce yoga, ces pratiques peuvent être instrumentalisées à des fins managériales, pour que les personnes puissent peut-être se reconnecter un peu plus avec eux-mêmes, mais au service et au profit, effectivement, d'une entreprise. Ce qui est intéressant dans le travail de Caroline Chen, c'est de voir que ce travail devient finalement l'église de la Silicon Valley, la vraie religion. D'ailleurs, il y a un taux d'athéisme qui est assez important dans la Silicon Valley, un peu plus que dans le reste des États-Unis. Olivier Alexandre, je le rappelle, vous avez vécu dans la Silicon Valley, vous avez rencontré beaucoup de gens, vous avez essayé de pénétrer différentes communautés, vous avez recueilli de nombreux témoignages, vous sortez donc cet ouvrage de près de 600 pages. En quoi, pour vous, dans votre perception justement du lieu, le travail pour une population qui est principalement d'étrangers, hein, vous le dites très bien dans votre ouvrage, que ce soit des étrangers, même des Américains qui ne sont pas nés en Californie, qui viennent d'ailleurs et donc qui se retrouvent un peu déracinés, et puis beaucoup d'Indiens, des Chinois, des Français. En quoi justement pour ces gens qui ne sont pas chez eux, le travail représente une forme de nouvelle chapelle, voire même de lien un peu communautaire?
Alors c'est une question profonde et c'est difficile d'y répondre rapidement, mais je vais quand même essayer de le faire.
C'est votre mission.
Bien sûr, c'est ma mission. Effectivement, vous l'avez dit, la moitié des gens qui sont dans la Silicon Valley viennent d'un autre pays, et quand ils viennent pas d'un autre pays, généralement ils viennent d'un autre État, ce qui fait qu'on ne naît pas dans la Silicon Valley, mais on y arrive, parfois on y repart, et en tout cas il s'agit de faire groupe à un moment, de faire vie aussi, et de faire vie loin de sa maison. Et le constat de Caroline Chen, il est un peu déploratif d'une certaine façon. Elle, c'est une spécialiste des religions, une sociologue des religions, et quand elle arrive, qu'elle a son poste à Berkeley, elle se rend compte que la religion a moins de prise, d'emprise, de réalité dans la vie quotidienne des gens. Alors même que elle a rencontré lors de son enquête beaucoup de gens qui avaient une pratique à l'origine. Il y a beaucoup de gens de la Silicon Valley, des Américains qui viennent du Middle West, qui sont des terres plutôt de chrétienté. Et faut toujours rappeler que les États-Unis, c'est le pays industriel le plus riche, qui a des niveaux de croyance et de pratique religieuse le plus élevé. Sinon, il y a une corrélation très très nette entre athéisme et niveau de développement des pays. La seule anomalie significative, ce sont les États-Unis. Or, dans la Silicon Valley, et c'est pas vraiment une nouveauté.
C'est l'anomalie dans l'anomalie.
Exactement. Dans la Silicon Valley, on a des niveaux d'athéisme qui sont un peu plus bas, et en même temps, il y a une vraie spiritualité. Et c'est ça qui est un paradoxe qui est intéressant. Et je crois que pour le comprendre, il faudrait faire un rapide aller-retour ou rembobinage sur l'histoire du capitalisme et essayer de considérer comment en fait quelles ont été les solutions apportées par la Silicon Valley aux grands défis du capitalisme. Si on regarde les premiers écrits de Max Weber par exemple, on se rend compte que le capitalisme c'est une affaire de culture, de puritanisme, et que le puritanisme amène au travail, mais qu'une des contradictions c'est qu'est-ce qu'on fait quand on a beaucoup travaillé, qu'on a beaucoup accumulé. Une des solutions, c'est les loisirs. La Silicon Valley se développe avant tout comme une industrie de la communication, de l'information. Bref, de savoir comment on occupe ces temps de loisirs. Une deuxième contradiction qui arrive bien plus tard, avec pointée par Daniel Bell dans les années 70, c'est de se dire que le capitalisme, bah, finalement, à un certain point, il rentre en conflit entre la valeur travail et la valeur loisir. Parce que si on passe trop de temps ou si on
est obsédé
par le loisir, on ne travaille plus. Une des solutions de la Silicon Valley, et ça a été beaucoup exploré par dans le nouvel esprit du capitalisme de Boltanski et Capello, c'est de valoriser les réseaux, les projets, l'individualisation du travail. Ce qui pose d'autres problèmes, parce qu'en bout de chaîne, qu'est-ce qui reste comme institution? Une fois qu'on a tout individualisé, qu'on a tout transformé en projet, toutes les grandes institutions qui font la société, que ça soit la santé, que ça soit l'éducation, que ça soit aussi la religion, tend à un peu être dissipée. Or, une des grandes solutions de la Silicon Valley, c'est de permettre tout un tas de bricolage spirituel, vraiment à l'interface entre l'Occident et l'Orient, ce qui correspond aussi à sa position géographique.
Et là, on voit effectivement le capitalisme et l'individualisme qui offrent une religion quasiment à la carte. On va piocher quelques croyances ici ou là pour arriver à une religion qui nous ressemble, qu'on va créer, qu'on va construire, qu'on va customiser, pour reprendre justement un terme du marketing. Julie Monméja, déjà sur la place traditionnelle des religions monothéistes dans la vallée, donc elles sont assez faibles. On a compris que c'était... Et il en est de même aussi pour ceux qui font la technologie, pour les grands patrons de la tech, ils sont plutôt orientés vers une autre forme de spiritualité.
Ouais, et puis ça, encore une fois, ça rentre dans un contexte historique aussi local, donc ça nous oblige à remonter un petit peu dans le temps et dans les racines contre-culturelles de cette technologie et de cette Silicon Valley. Remonter même jusqu'aux années 50, jusqu'à la Beat Generation, parce que c'est vraiment là que va venir, d'où va venir cet aspect spirituel, cet attrait pour les philosophies, pour la spiritualité orientale. Et bien sûr, la Beat Generation, elle va s'implanter dans l'historique Barbary Coast de San Francisco, qui est devenu le quartier de North Beach, et qui jouxte, là c'est pas un hasard non plus, qui jouxte Chinatown, qui bien sûr à l'époque était connu, reconnu pour ses bars à opium. Donc on a tout ce terreau, toute cette contre-culture balbutiante qui va être véritablement aux origines de cette technologie qui va véritablement se développer un petit peu plus au sud. Et moi, bien sûr, une des personnes sur lesquelles je me suis le plus penchée, c'est Stuart Brand. Et là non plus, ce n'est pas un hasard. Brand, il va s'installer à North Beach parce que les beats sont là, parce que City Lights.
Faut peut-être nous situer qui est Stuart Brand, parce qu'on aura l'occasion de rementionner son nom
oui,
plusieurs fois dans cette émission.
Donc, créateur, fondateur du Whole Earth Catalogue, qui avant ça était membre de différents groupes artistiques contre-culturels, USCO dans un premier temps, les Merry Pranksters de Ken Kesey juste après.
Qui est passé par Stanford.
Oui. Qui a un diplôme de biologie de Stanford qu'il a obtenu au tout début des années 60 et qui va être une source d'inspiration pour la Silicon Valley et notamment, bien sûr, pour Steve Jobs.
Steve Jobs qui d'ailleurs a entrepris un voyage célèbre en Inde, parce que comme tout bon Américain, il en a aussi fait un storytelling, il a raconté cette histoire, il s'en est servi. C'est quoi justement l'approche spirituelle, on va dire, alors c'est peut-être compliqué de savoir si elle est réelle ou pas, mais quelle est l'approche spirituelle du moins telle qu'il l'a montré de Steve Jobs?
Ouais, donc moi je dirais qu'il y a les deux pendants. Il va y avoir d'un côté donc ces fondateurs comme Jobs qui ont cette influence avérée pour le bouddhisme, pour l'hindouisme ou pour le courant zazen. Donc Steve Jobs est parti en Inde avec son ami d'université Daniel Kottke. Ils ont passé plusieurs mois là-bas. Ils ont assisté au Kumbh Mela, donc à des fêtes traditionnelles hindouistes sur place. Et tout ça, bien sûr, ça l'a énormément influencé dans les débuts d'Apple. Mais donc, pour cet aspect, on va dire, ça va surtout avoir un impact sur sa philosophie autour de la compagnie, le design épurer des produits également.
Le fait de penser même différemment, ce qu'il en a fait son slogan. Donc on voit que ça entre totalement dans l'image aussi de Steve Jobs, c'est-à-dire un sentiment un peu de pureté, de recherche de connexion profonde. Ça brise un peu l'image juste d'un entrepreneur qui veut gagner de l'argent.
Ouais, et ça contraste aussi avec Steve Wozniak, qui lui était, on va dire,
le cofondateur.
Et un geek pur et dur qui s'intéressait bien sûr à la construction des machines. Et à côté de ça, à côté de ces figures de la tech qui s'intéressent à cette spiritualité hindouiste, on va avoir des ingénieurs purs et durs qui, eux, sont vraiment omnibulés par la machine et qui n'ont pas cependant hippie. Et là, je pense à des ingénieurs comme Lee Felsenstein, comme Bob Albrecht, qui, eux, sont vraiment intéressés par la technologie pure et dure à proprement parler.
Voilà, on a donc dressé déjà un petit tableau historique pour situer culturellement et géographiquement, on l'a fait au début, où se situe la Silicon Valley. Vous avez parlé justement du yoga. Le yoga est présent aussi chez Ouzbek Erika Blaise Mao à travers les travaux justement de Zineb Fazi, qui a écrit cet ouvrage Le Yoga, Nouvel Esprit du Capitalisme. Et vous allez expliquer justement le fond de sa théorie, de cette encore peut-être récupération des origines, de l'essence même du yoga.
Oui, le yoga qui est prescrit, on va dire, enfin qui est plus que conseillé dans un grand nombre d'entreprises de la Silicon Valley, et pas que la Silicon Valley, ça s'est complètement démocratisé aujourd'hui dans des entreprises, même dans des très grands groupes ou dans des startups comme les mutuelles Allan. Enfin, il y a plein d'entreprises aujourd'hui qui ont recours à l'introduction donc du yoga ou d'autres pratiques venues d'Orient pour optimiser le bien-être et la productivité de leurs employés. Ce qui est intéressant, c'est que l'idée est que on vend plus son âme à l'entreprise, mais on la trouve dans l'entreprise. Et donc, il s'agit de piocher. Mais il n'y a pas que le yoga. Il y a la méditation, il y a les groupes de prière hebdomadaires, il y a les coachs de vie. Il y a tout un arsenal, en fait, d'options possibles pour les employés qui, là, je cite Caroline Chen, sont comme des plantes à arroser et à cultiver.
Donc, c'est-à-dire qu'il y a vraiment cette idée qu'on va se révéler dans le cadre de l'entreprise, qui est un cadre propice à l'épanouissement et au changement, en fait.
Et il y a une citation intéressante de Raphaël Liogier, le sociologue des religions, qu'on a interviewé dans le cadre de notre enquête sur la Silicon Valley. Il dit, dans les années 80, avec la méditation, vous faites le vide. Dans les années 2000, vous faites le plein. C'est la pleine conscience, c'est la performativité. Le bouddhisme est devenu une thérapie contre le burn-out. Donc on a une sorte d'alignement où, en fait, ça vient vraiment répondre à un besoin de productivité et à ce mythe de l'entrepreneur dont Olivier va sûrement reparler aussi, qui s'est construit dans la Silicon Valley. Mais il faut centraliser les fonctions du travail, il faut centraliser le domicile, l'église, le voisinage, et donc vous utilisiez le mot de communauté. On est vraiment dans cette approche, le yoga faisant partie, n'étant qu'un des aspects de cette réponse. On s'est demandé aussi comment expliquer le succès de ce qu'on appelle aujourd'hui la Zen Tech, qui est un véritable marché.
Différentes applications, c'est ça?
Ouais. Donc là, c'est vraiment plus spécifiquement sur la méditation. En fait, on s'est demandé si la méditation était soluble dans les algorithmes. Est-ce que on peut avoir une pratique méditante corrélée à des applications numériques fonctionnant sur des modèles payants? A priori, c'est contradictoire, et c'était intéressant de voir qu'en fait, c'est un marché colossal, et que 533 millions de dollars en 2022, le marché de la Zen Tech, et que vous avez donc des entreprises qui cherchent à être le Nike de la méditation, qui revendiquent en fait cette étiquette-là. Donc il n'y a pas du tout de scrupules, on assume totalement un rapport décomplexé au marché dans la Zen Tech, méditation rime avec gamification payante. Vous avez des applis comme Muse qui récoltent les données sur le champ électromagnétique du cerveau pour déterminer la qualité de l'attention et classer les performances des méditants. Voilà, il y a un rapport en fait qui perd une partie de sa pureté spirituelle et qui devient vraiment un entraînement monétisé, on pourrait dire.
Qui paraît effectivement assez antinomique avec la méditation, le fait de faire un peu le vide et d'être connecté qu'à soi-même et pas forcément connecté à une application. Exactement. Qui va elle-même analyser ces données. Olivier Alexandre, est-ce que vous l'avez ressenti en vivant à San Francisco, dans la Silicon Valley, peut-être cette forme d'injonction à pratiquer des spiritualités orientales, voire même à pratiquer le yoga? Je crois que vous en faites partie d'ailleurs, vous faites du yoga, vous le dites dans votre ouvrage.
Exactement, merci de m'avouer, cher François.
Vous l'avez écrit vous-même.
Bien sûr, bien sûr. Vous m'avez bien lu. Donc non, je pratique le yoga, je le pratiquais avant d'arriver dans la Silicon Valley. Depuis la Silicon Valley, je pratique la méditation, c'est vrai. Et en tant que sociologue, je me suis rendu dans des événements, des espèces de conférences qui essayaient de marier l'entrepreneuriat et la méditation. Et j'ai pu me retrouver aussi dans des assemblées, enfin l'équivalent de ce dispositif, avec des gens qui commencent à méditer devant moi, ce qui est une forme d'interaction très étrange. Alors il y a plusieurs choses. Bon, on l'a dit, la Silicon Valley, c'est un peu loin de tout, surtout pour les gens de la tech. Et puis c'est des gens qui sont quand même assez soucieux de l'optimisation de leur potentiel, y compris leur optimisation de leur potentiel physique et spirituel. Ce qui font que bah, ils passent beaucoup de temps dehors à faire du sport et quand on est dans la Silicon Valley, il n'y a pas beaucoup d'autres alternatives en fait culturelles. C'est pas Los Angeles, c'est pas New York.
Il n'y a pas quantité de musées, etc. Il y a juste l'extérieur, la nature,
même
donc le sport.
San Francisco, hein, qui est une ville qui a une réputation culturelle mondiale. C'est une des trois villes superstars des États-Unis. Mais en même temps, si on regarde le nombre de librairies, de cinéma, de clubs, de clubbing, on est très très bas en fait si on le compare aux grandes villes internationales. Et le sport, par contre, et notamment l'environnement. Environnant, là, est vraiment un théâtre et un espace de jeu, y compris pour les grandes figures de la contre-culture et des contre-cultures qui sont toujours à mettre au pluriel. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, ce qu'évoquait Blaise, en fait, quand je parlais tout à l'heure de désinstitutionnalisation, de désaffiliation de l'univers de la Silicon Valley, en fait, la grande cellule sociale de base de la Silicon Valley, c'est l'entreprise. Et ça date pas d'hier, ça date des années 30, quand les gens de la Silicon Valley, les entrepreneurs, les ingénieurs, ont commencé à se poser deux questions. Et la grande angoisse, et ça reste la grande angoisse dans la Silicon Valley. La première, c'est d'éviter que une entreprise vienne recruter les talents de sa propre organisation. Et la deuxième angoisse, c'est de voir ses employés quitter l'entreprise pour fonder leur propre entreprise. Ça, c'est vraiment ça serait une catastrophe. Et quelle a été la solution pour résoudre ce problème? C'était de bien traiter les employés, des employés qui sont considérés comme à forte valeur ajoutée parce que c'est des techniciens très très bien formés, des ingénieurs, sur un marché du travail qui a toujours été extrêmement tendu, et aujourd'hui on parle de crise mais ça reste un marché du travail extrêmement tendu, et je peux vous dire que quand vous êtes data analyst spécialisé en intelligence artificielle aujourd'hui, vous avez beaucoup de monde qui va vous solliciter quotidiennement.
C'est pour ça que je fais une petite parenthèse, pardon, c'est pour ça que dans votre ouvrage vous parlez aussi de terre promise, qui est celle de la Silicon Valley, c'est-à-dire c'est des travailleurs qui sont bien implantés et qui savent qu'ils sont quelque part dans un endroit un peu au maximum de ce qu'ils peuvent espérer, même si beaucoup vont peut-être au bout de certains temps partir.
Non, parce qu'aujourd'hui la tech est devenue centrale dans l'industrie et de tous les pays, mais en même temps quand on était qui, être dans la Silicon Valley c'est être au paradis, de la même façon que quand on est acteur on veut être à Hollywood ou quand on veut faire de la comédie et du théâtre on veut être à Broadway. Là en l'occurrence ils ont vraiment la valorisation maximum, le traitement maximum en termes de salariat, et puis aussi le niveau de confort et de reconnaissance les plus importants au sein de l'entreprise. Et je le disais, voilà, l'entreprise en fait progressivement et cumulativement au fil des années, sur 80 ans d'histoire, va se mettre, et surtout les grosses entreprises aujourd'hui, à remplir tous les besoins fondamentaux des individus, comme le ferait une mère nourricière, ou c'est la métaphore de Caroline Chain, ou l'État-providence d'une certaine façon. Dans la Silicon Valley, l'État-providence ne joue pas vraiment son rôle pour plein de raisons, parce que la ville est relativement dysfonctionnelle sans lui faire des honneurs. Ensuite, il y a le comté. Les comtés sont souvent en rivalité. Ensuite, il y a la Californie qui est un État à peu près ingérable, avec énormément de conflits.
Et cette grande idée aussi que l'État est un régulateur, castrateur, qui nous empêche justement d'innover.
C'est loin, c'est composite et c'est plutôt considéré comme dysfonctionnel, notamment pour des gens qui sont là depuis deux mois, qui ont un niveau de formation très élevé, qui considèrent qu'ils sont un peu mieux passés pour résoudre à peu près tous les problèmes. Et donc, l'entreprise, c'est vraiment cette cellule qui va répondre aux besoins, mais qui est une réalité, en fait, quasiment économique et de marché du travail. C'est-à-dire que si l'idée, la philosophie derrière, c'est que si vous contentez et si vous satisfaisez convenablement vos employés, ils auront peu de chances de partir ailleurs. Et depuis 10 ans, hein, le petit jeu de rivalité entre Apple et Google et Facebook, ça a été ça, et de savoir comment, qui va traiter le mieux ses employés avec des classements sur les perks, ces petits avantages qui vont de la blanchisserie à l'école, au transport, les navettes, la qualité des navettes, la qualité des bus font l'objet de discussions chez les techies. Ouais, alors chez Netflix, les bus sont pas géniaux, chez Google, ils sont super.
Vous l'avez dit, c'est vraiment une sorte d'entreprise providence où il y a à la fois ce côté paternaliste et affinitaire, où on est là pour offrir un cadre de vie.
Absolument. Alors, Ce qu'il faut dire aussi, c'est que ça concerne les très grandes entreprises et que la Silicon Valley, c'est pas juste une affaire de très grandes entreprises. C'est même minoritaire, en fait, d'une certaine façon, d'un point de vue démographique, les grandes entreprises. La majorité, c'est les petites entreprises. C'est plutôt ce qu'on appelle à Hollywood des strugglers, des gens qui essayent de prédominer dans la mêlée. Et de ce point de vue-là, toutes les pratiques spirituelles ou sportives sont aussi d'une grande ressource. Le sport le plus pratiqué par les entrepreneurs, et y compris les petits entrepreneurs là-bas, c'est le kitesurf.
Alors justement, on va continuer à surfer, mais on va surfer dans le désert, sur le sable du Burning Man, puisque on a bien compris un peu comment fonctionnait cette Silicon Valley. C'est donc ces employés qui sont principalement soit dans l'entreprise, soit en extérieur. Et il y a un moment clé, un moment phare qui a lieu à la fin du mois d'août, pendant l'été, qui est donc le festival du Burning Man, qui est maintenant qui appelle, on va dire, des dizaines de milliers de personnes aujourd'hui. Beaucoup d'employés de la tech, principalement des employés de la tech. Vous avez aussi fait une analyse, Julie Monméja, du Burning Man, pour situer justement sur les origines de ce festival. Est-ce qu'on remonte jusqu'aux années 60, peut-être, pour trouver l'héritage du Burning Man?
Alors, on peut remonter jusqu'aux années 60, mais c'est surtout les années, on va dire, fin 70, années 80, où, dans la lignée des pranksters, on va avoir des groupes qui vont se former, donc notamment le Cacophony Society et le Suicide Club, et c'est eux qui vont fonder Burning Man sur une plage de San Francisco. Donc on est encore loin du désert du Nevada et de Black Rock City, on est à Baker Beach, et ce sont des amis, des néo-pranksters qui se réunissent et qui décident de brûler un bonhomme de bois à la fin de la soirée.
Se débarrasser du superflu, oui, cette idée un peu symbolique.
Et puis peut-être aussi une espèce de célébration spirituelle, avec ce grand bûcher à la fin.
Et puis c'est un peu une tradition aussi à la fois nationale de fêter la fête de l'été, puis pas que nationale, hein, dans beaucoup de sociétés on retrouve ce rite. Et en plus il y a une tradition, c'est ce que j'ai découvert là-bas, de sculpteurs, notamment de sculpteurs de bateaux, qui à la fin de l'été, souvent quand il y a un deuil par exemple, sculptent un bateau et le mettent dans l'océan et le brûlent, et voilà, espèce de rite néo-viking.
C'est ça, et donc la constitution d'une tribu, donc on est encore une fois dans cette notion de tribe, de communauté, qui vient se former autour de ce bûcher flambant. Mais oui, ce lien avec la contre-culture qui est là indéniablement. Un des fondateurs de Burning Man, c'est John Lowe, qui est un prankster reconnu et qui continue des expérimentations artistiques, qui s'est complètement détourné de Burning Man parce qu'il ne reconnaît absolument pas le festival par rapport à ce qu'il était à ses débuts. Et donc lui, il est arrivé à San Francisco, encore une fois, à cause ou grâce à la Beat Generation. Donc on a cette influence que l'on retrouve d'une communauté artistique à une autre, d'une communauté contre-culturelle à une autre.
Et on l'a dit effectivement, en Burning Man, une poignée de personnes à sa création début des années 80. Et puis ensuite, ça n'a fait chaque année que de prendre de l'ampleur jusqu'à avoir 80 000, parfois 90 000 personnes qui vont. Il faut bien comprendre cette idée d'aller traverser le désert dans des conditions climatiques très rudes, de sentir de la déshydratation, de former des communautés, des camps, de créer. Ça entremêle art, gestion de projet, connexion et aussi évidemment drogue, où la drogue est ici utilisée aussi pour tenter de se connecter, de trouver même des idées. Tiens, je vous propose d'écouter un extrait de Stewart Brand dont on a parlé tout à l'heure, qui parlait des vertus du LSD.
Je me souviens d'un moment sous LSD que j'ai eu sur une colline. Big Sur regardait l'océan et il a vu passer un bateau, un petit navire à écoute bleu pâle sur un océan bleu pâle. Ce genre de clarté était le genre de choses qu'on pouvait obtenir sous LSD. Ce n'était pas un expanseur mental, mais un concentrateur mental. En ce qui me concerne, j'ai eu l'un des rares cas documenté d'une véritable expérience créative sous LSD sur un toit à San Francisco. J'ai réalisé que si jamais nous obtenions une photo de la Terre depuis l'espace, cela changerait la perspective des gens sur tout.
Et voilà, Stuart Band qui parle justement de l'image et de la couverture même de son catalogue. Olivier Alexandre, alors je sais que vous avez pratiqué du yoga, je ne sais pas si vous avez pris du LSD, je ne vous poserai pas la question en direct ce soir. Mais quel rôle jouent justement les drogues dans ce festival de Burning Man? Pour revenir justement un peu au vocabulaire religieux, puisque c'est quand même la thématique de cette émission, c'est ça, c'est un pèlerinage, c'est un déplacement, c'est une volonté de communion, et c'est donc des drogues, et votre sourire acquiesce, Olivier
non,
Alexandre.
Non, mais ce qui est compliqué avec le Burning Man, c'est qu'on est...
Il y a une mythologie, vous allez dire, c'est ça?
Non, on est très très vite saisi et sidéré, et on colle aux éléments les plus spectaculaires du Burning Man, qui sont les drogues, la nudité, l'extravagance. Et c'est vrai que si on le regarde de loin, c'est ça qui saute aux yeux. Et la nudité dans un pays où elle est beaucoup moins bien tolérée qu'en France. Hein. Je veux dire, la tradition du topless, elle n'est pas du tout ancrée aux
États-Unis. Instagram en sait quelque chose.
Exactement. Donc, on estime qu'il y a près de 5% de personnes nues tout le temps au Burning Man, dans un lieu qui ne s'y prête pas du tout. Parce qu'on dit désert, c'est pas un désert de sable, c'est un désert de poussière, en plus acide. Donc, où il est vraiment déconseillé de se dénuder et même de marcher pieds nus. Et effectivement, les conditions sont extrêmement dures. Et la drogue dans tout ça, en fait, aide pas vraiment. Puisque quand vous êtes déshydraté, désorienté, agressé par des conditions, la journée très dure en termes de chaleur, la nuit très dure en termes de température, parce que les températures peuvent approcher des températures négatives. Il y a des gens qui sont là depuis une semaine, parfois 15 jours, parfois plus. Donc la drogue aide pas vraiment à passer ce cap-là. Par contre, c'est un élément dans tout un tas de dispositifs qui sont les jeux, qui sont les rituels, les cérémoniaux, qui peuvent être la méditation, les pratiques de yoga, les ateliers, qui peuvent être la disposition, l'organisation de la ville, qui a une partie quasiment urbaine avec des rues, et puis une partie qu'on appelle la plage, qui est vraiment un espace de jeu, qui est un espace mouvant. Et en fait, les drogues participent à cette mouvance, à faire évoluer la conscience dans un environnement qui est lui-même mouvant. Et quand vous mettez, ça fait un espèce de double manège comme ça, quand vous avez à la fois un espace mouvant et votre conscience elle-même qui se déplace, ça fait une révolution.
Au sens propre du terme, effectivement.
Et vous êtes confronté à cette expérience de la révolution, qui est une expérience extrêmement forte, déstabilisante, dérangeante. Certaines personnes ne la supportent pas. Il y a beaucoup de personnes qui sont rapatriées d'ailleurs directement. Et si on la passe, alors à la fois comme rite initiatique, mais aussi comme rite cognitif et spirituel. Et d'ailleurs, le désert, c'est aussi une grande figure hein, de la littérature spirituelle et spiritualiste. Si on la passe, eh ben, en fait, on la garde avec soi, d'une certaine façon, cette petite révolution personnelle et intime. Et après, on peut en faire quelque chose, on peut s'appuyer dessus, notamment quand on est entrepreneur, soit avec des idées très très concrètes, un peu à la manière de Stuart Brand l'a évoqué. Elon Musk a eu l'idée de Solar City en étant à BlackRock City. Philip Rosedale, le concepteur de Second Life, a eu l'idée aussi quand il était à BlackRock City.
Parfois, on a même des idées de recrutement comme Google qui s'est dit qu'ils allaient justement recruter.
Et qui est une scène primitive de Google, quand Google cherchait... je vous raconterai l'histoire après, mais ce que je veux dire, c'est que quand... on a effectué cette petite révolution et qu'on la ramène chez soi dans sa vie, San Franciscaine ou ailleurs, on a tendance à voir les choses en grand, on a tendance à se dire que les choses ne sont impossibles que dans la mesure où on s'est imposé ses propres barrières.
Ouais.
Et quand on a fait, quand on a dépassé et fait tomber ces barrières-là, tout est possible.
D'ailleurs, vous le dites dans les différents témoignages que vous avez recueillis de gens qui sont partis faire Burning Man, ça m'a transformé. Ce qui ressort, c'est vraiment cette transformation. Mais c'est très intéressant, cette idée de révolution. Finalement, c'est ça, la révolution numérique. C'est peut-être cette idée d'arriver à avoir une idée qui nous renverse, qui nous bouleverse. Et donc, c'est des personnes qui se mettent dans des situations de perte de temps, de perte de repères, de perte de lieu, d'usage effectivement de différentes drogues pour arriver à avoir cette idée qui, quelque part, nous dépasse quand même. Parce que on va se mettre dans un moment... une situation où on espère d'être foudroyé justement par des éclairs.
Oui, bah c'est, je parlais de littérature mystique, c'est vraiment ça, c'est la voix, c'est la révélation, c'est l'expérience mystique et qui est souvent une expérience en fait d'interconnexion entre soi et son environnement. Et très souvent, ce que les gens racontent, c'est que déjà ils vont dans le Burning Man pour expérimenter la magie et que cette magie, elle revient en fait à placer la conscience individuelle dans un monde beaucoup plus vaste qui permet de voir des connexions à la la fois dans l'espace et dans le temps. Mmh. Et ça, c'est vraiment un credo et un dispositif mental très très fort dans la Silicon Valley.
Et puis on est aussi en plein donc dans la désobéissance civile et dans la dissent. Avait nommé dissent.
La désobéissance civile, d'autant plus que justement le monde normal devient un monde par défaut, ouais. Et que là où on est du côté de la vérité et nous, on est du côté de la musique. On va écouter les Daft Punk qui sont allés au Burning Man. Et oui, on le dit chaque année, on pense que les Daft Punk sont là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils passent dans le meilleur des mondes.
Make it, do it, makes us harder, better, faster, stronger, more than power, never, ever, after, work is over. Work it, make it, do it, makes us harder, better, faster, stronger.
Harder, better, faster, stronger, ça aussi c'est la philosophie et l'esprit de la Silicon Valley, aller toujours plus loin, aller toujours plus haut en travaillant un maximum, c'est les Daft Punk et vous êtes dans le meilleur des mondes qui nous amène tout de suite vers le journal.
Better, happier, comfortable, not drinking too much, regular exercise at the gym, 3 days a week.
Les nouvelles du meilleur des mondes, François Saltiel.
La semaine dernière, Joe Biden se trouvait au cœur d'un spot de campagne des Républicains, le mettant en scène grâce à une intelligence artificielle. Et cette semaine, son administration et la vice-présidente Kamala Harris a convoqué les plus grands entrepreneurs de cette technologie à la Maison Blanche pour un rappel à l'ordre. Le patron d'OpenAI, celui de Microsoft ou encore Sundar Pichai, le boss de Google, ont tous quitté leur Silicon Valley pour la côte Est. Et cette réunion au sommet où Kamala Harris a fait part de ses craintes face au développement de l'intelligence artificielle, elle veut s'assurer que le peuple américain bénéficie de ses avancées sans le mettre en danger, une inquiétude formulée quelques jours après les déclarations d'un pionnier de l'intelligence artificielle, Geoffrey Hinton, qui vient de démissionner de son poste chez Google pour parler plus librement. À la BBC, il a confessé même regretter l'œuvre de sa vie dans une posture classique du repenti de la tech, et il pense même que ces machines pourront un jour être plus intelligentes que les humains. Une vision apocalyptique qui renforce le mythe du grand remplacement des humains par des robots. Le gouvernement américain, une fois n'est pas coutume, réfléchit donc à la mise en place d'une régulation sans vouloir étouffer l'innovation. On sent ici tout le paradoxe d'une puissance américaine qui veut rassurer sa population par la diffusion de ses inquiétudes, tout en continuant à appuyer sur le bouton du développement de l'IA pour ne pas voir les Chinois ou les Russes le faire à leur place. IA toujours avec une image qui crée la polémique, pourtant l'intention était louable. Le département norvégien d'Amnesty International a publié sur Twitter une photo pour dénoncer la répression policière en Colombie. On y voit une manifestante menottée au milieu d'un régiment de forces de l'ordre. Sauf que cette image est fausse, elle a été générée par une intelligence artificielle. Elle a suscité l'émoi de nombreux photoreporters qui se battent au quotidien en mettant souvent leur sécurité en jeu pour documenter cette réalité. Et il est plutôt étonnant de voir une ONG recourir à un faux pour alerter sur un vrai problème, alors que de nombreuses images existent. Amnesty a plaidé l'erreur et a justifié son choix initial en voulant préserver l'anonymat de la manifestante. Mais devant le tollé, l'ONG a reconnu l'erreur et pris une mesure, celle de ne plus utiliser, jusqu'à nouvel ordre, des images générées par l'IA. Et on termine par une première qui a des faux airs de science-fiction. Des chercheurs de l'université d'Austin, au Texas, ont réussi à lire dans les pensées d'une personne de manière non invasive. Je m'explique. Trois cobayes sont restés dans un scanner pendant plus de 15 heures en écoutant des podcasts. On ne sait pas lesquels, peut-être le meilleur des mondes. Un décodeur basé sur l'intelligence artificielle a pu traduire leur activité cérébrale et transformer ce flux d'informations en texte. Bon, il y a eu évidemment quelques approximations dans la traduction textuelle de leurs pensées, mais il s'agit d'une avancée majeure qui pourrait, selon les chercheurs, permettre à terme de restaurer la parole chez des malades victimes, par exemple, d'accidents vasculaires. Voilà pour la version « rendre le monde meilleur ». Maintenant, je vous laisse imaginer tous les dégâts que pourrait causer cette technologie si elle était entre de mauvaises mains, comme celle d'un pouvoir autoritaire. Il n'a pas besoin de lire dans vos pensées, cher auditeur, vous êtes bien dans le meilleur des mondes. Et nous sommes toujours en compagnie de Blaise Mao, rédacteur en chef d'Ouzbek Erika, d'Olivier Alexandre, sociologue et auteur de La Tech, quand la Silicon Valley refait le monde, paru aux éditions du Seuil, et de Julie Montméjac, qui est docteur en civilisation américaine à Sorbonne Nouvelle et également à l'université Lyon 2. On tente de sonder l'esprit de la Silicon Valley avec des incursions historiques, des incursions dans le désert aussi, puisqu'on a parlé du Burning Man, qui n'est pas juste un moment, mais qui représente à sa manière l'esprit de la Silicon Valley, avec tout son lot de pèlerinages, d'épreuves physiques. Et on va poursuivre avec vous, Blaise Mao, toujours donc dans votre très bon dossier, les nouvelles routes de la foi, de ce numéro 39 d'Ouzbek Erika. Vous avez aussi exploré l'initiative d'un individu qui a tout simplement voulu créer sa religion itinérante. Et là, on revient justement à ces multitudes de croyances, de chapelles, d'églises, de courant, de mouvement. Comment s'appelle-t-il ?
Juan Pablo Menezes. Voilà. Et c'est une sacrée aventure qui part d'Amérique latine pour nous emmener en Inde et revenir dans la Silicon Valley. Juan Pablo Menezes est un journaliste chilien basé en Argentine aujourd'hui et qui est l'auteur d'une trilogie de ce qu'il appelle le journalisme cash. Donc il avait fait un premier livre où il avait acheté un bovin et il l'avait mangé. Il avait fait un deuxième livre où il avait acheté un enfant footballeur pour voir.
Et il l'avait mangé.
Et il l'avait pas mangé. Spoiler. Et il a poursuivi sa trilogie de journalisme cash qui vise donc à montrer que tout peut s'acheter en tentant d'acheter une divinité et de créer une religion. Ce qu'il a fait en allant à Benares, à Varanasi, en Inde, donc la capitale spirituelle de l'Inde, il est allé dans une boutique pour touristes où un vendeur lui a présenté un petit dieu méconnu, vénéré par une très grande famille, associé à un nombre important de divinités. Pour la modique somme de $200, il a acheté cette petite divinité pour créer sa religion itinérante, celle des solitaires, des voyageurs, des itinérants, des travailleurs sans domicile fixe, allant d'open space en café connecté. Il y en a un paquet dans la Silicon Valley. Et donc, il a créé cette religion vraiment comme une expérience. Ça a pris. Il s'est retrouvé avec des gens des quatre coins du monde, quelques centaines de personnes assez vite. C'était vraiment pour voir jusqu'où ça le menait. Et en fait, il n'y avait pas de culte contraignant. Lui, c'était juste, il a dit, voilà, on est une nouvelle génération de travailleurs nomades. On a besoin d'avoir notre moment, notre cérémonie à nous, de se retrouver, de parler entre nous. Donc, c'est une logique finalement presque celle d'un réseau social, mais avec tout le vocable et tout le décorum, on pourrait dire, d'une religion. Et il est allé, pour fonder un peu donner un peu des soubassements solides à cette église, il est allé à Stanford, en Californie, dans la Silicon Valley. Il a évidemment trouvé là-bas une oreille très attentive à son initiative. Et quand on lui a dit « Ah, mais c'est super, c'est quoi ton business plan pour développer ta religion ?» Et il raconte bien ça, c'est-à-dire que lui, il dit « Dans mon pays... au Chili, et quand j'étais passé par l'Europe, on m'avait dit, mais t'es taré, t'y arriveras jamais, on peut pas acheter une religion, c'est pas possible. Il y avait un scepticisme.
C'est pas une marchandise originelle. Comme les autres.
Voilà. Voilà, c'est pas une marchandise comme les autres. Et là, il s'est rendu compte qu'il avait des interlocuteurs, il a fait le tour des festivals et des salons qu'Olivier et Julie connaissent bien, et on lui a dit, mais mais incroyable. C'est quoi ton projet à long terme, à 5 ans, 10 ans, comment tu veux le développer, quelles sont tes audiences à venir? Et donc, il raconte cette expérience dans son livre, hein, qui est intéressant, parce qu'il dit: j'ai fini par me prendre au jeu et à croire à ma propre religion. Il y a une petite mise en abîme qui est rigolote à la fin. Il dit que ça l'a quand même chamboulé. Donc on rejoint un petit peu les expériences que racontait Olivier. C'est que on peut, même en étant, il dit, j'ai quitté ma posture cynique de journaliste sceptique, où je voulais juste démontrer que tout pouvait s'acheter. J'ai fini par me prendre à mon jeu, à prendre vraiment plaisir à entrer dans ces cérémonies. Donc ça m'a un peu vrillé le cerveau. Voilà, il fait une version résumée dans le nouveau numéro de cette aventure littéraire.
Qu'on peut retrouver donc en long format dans votre magazine, le dernier, Ouzbek Erika. Ce qui est intéressant, Julie Monbéja, dans ce qu'on vient d'entendre, c'est vraiment cette idée aussi, c'est principalement des hommes, en tout cas à ma connaissance, qui vont créer un courant, créer un mouvement. On sait d'ailleurs pas vraiment s'ils y croient au départ, en tout cas ils finissent par y croire, et l'idée c'est que plutôt d'autres personnes y croient aussi. On est toujours vraiment sur cette thématique de la croyance aussi, dans la Silicon Valley, une croyance en un projet, en une adhésion. On peut citer par exemple Ray Kurzweil, qui lui n'a pas fondé une religion, mais il a fondé une université, l'université de la singularité, qui a cette idée qu'un jour les machines nous remplaceront parce que l'intelligence artificielle deviendra tellement performante qu'il y aura une sorte de Big Bang. Il y a aussi le transhumanisme, qui est une théorie qui circule beaucoup dans la Silicon Valley. On en est où justement du transhumanisme, Julie Monbéja, aujourd'hui dans la Silicon Valley? On en parlait beaucoup il y a quelques années. Est-ce que c'est encore d'actualité? Est-ce que c'est encore en vogue? Est-ce que beaucoup de gens y croient vraiment? On voit très bien qu'il y a beaucoup d'investissements, il y a tout un marché du transhumanisme, mais concernant les gens en fait qui y vivent, est-ce qu'il y a encore cette adhésion?
J'ai l'impression que c'est un petit peu moins important ces dernières années, et que pour le coup, la Silicon Valley se penche plutôt sur le long-termisme et ce que vont devenir leurs entreprises, bien entendu.
Alors le long-termisme, justement, Julie Monbéja, vous avez beaucoup travaillé sur cette question. Est-ce que vous pouvez nous définir ce que c'est que le long-termisme?
Alors, c'est un néologisme déjà qui est apparu il y a 5 ans, en 2017, notamment avec William McCaskill. Et moi, je travaille sur la pensée sur le long terme. Alors, où est la différence? C'est une très bonne question. Le long-termisme, donc, c'est une projection sur le long cours, sur la très longue durée. Je fais un parallèle dans mes travaux avec Braudel, et comment est-ce qu'il s'est projeté en tant qu'historien sur le temps très long pour justement parvenir à surmonter les événements du quotidien, les événements que nous, on arrive à mesurer en tant qu'être humain sur quelques semaines, sur quelques années. Et donc, ce but de penser sur le long terme, c'est de projeter l'être humain dans un futur très lointain.
Donc à plusieurs générations, on est d'accord.
Hein. Plusieurs générations en arrière, avec...
En avant même.
En avant, en étant en arrière, avec ce but annoncé d'être de bons ancêtres pour nos descendants et de leur laisser de meilleures conditions de vie et leur laisser une planète dans un bon état.
Alors, là, vous faites très justement rendre le monde meilleur, hein, parce que ça paraît comme ça très louable comme version de laisser la planète, et d'ailleurs on en parle beaucoup, hein, de ces conflits générationnels qu'on a en ce moment. Olivier Alexandre, peut-être un peu plus sceptique sur ce long-termisme.
Oh, c'est pas mon rôle d'être
vous
sceptique.
Vous êtes un sociologue, non, mais, bien sûr, mais vous pouvez peut-être recenser des visions un peu plus sceptiques.
Alors pour entrecroiser les deux discussions. Justement, c'est un sociologue, Rossmann, qui était un des sociologues, un des pères fondateurs de la sociologie américaine, qui avait un poste à Stanford, qui avait publié un texte en 1902 ou 1903 où il valorisait et consacrait comme ça ce qu'il appelait les grands hommes. Il disait que les grands hommes se font par eux-mêmes, à travers eux-mêmes, et qu'ils construisent non seulement des entreprises, mais dans leur plus haut niveau de réussite, ils peuvent produire leur propre religion sociale. C'est une espèce de consécration et de paraclet. Ce qui est intéressant dans la Silicon Valley, c'est que la figure de l'entrepreneur, à chaque fois, il crée un peu sa propre religion à travers des solutions. Des solutions qui ont des vertus et des propriétés, selon eux en tout cas, messianiques, c'est-à-dire que à travers la diffusion de technologies, le meilleur des mondes arrivera. Et c'est ce qui, si on regarde Steve Jobs, mais même avant Gordon Moore avec Intel, Mark Zuckerberg avec la volonté de transformer le monde en un grand graphe et d'interconnecter tout le monde, Google, Don't Be Evil, et puis avec une mission quand même très forte, et Sam Altman aujourd'hui qui compare ChatGPT et OpenAI au projet Manhattan. Mm. Et là, du coup, on bascule avec cette dernière référence sur un rapport assez ambivalent et caractéristique de la Silicon Valley, c'est-à-dire que le futur est ambivalent. Et il peut augurer du pire, et notamment si on se désintéresse des technologies. À l'inverse, surinvestir et investir les technologies permettra d'optimiser ce futur et cet avenir.
Donc là, c'est entre le technomessianisme et le technosolutionnisme.
Ouais. Alors, ce qui est intéressant avec le long-termisme, effectivement, qui est personnalisé par William McCaskill, qui est né en 1987, d'origine écossaise, qui fait sa carrière à Oxford, et en même temps qui se retrouve une référence, le hot cookie, comme on dit dans la Silicon Valley, du moment, notamment parce qu'il se lie d'amitié, ou du moins on lui accorde beaucoup d'audience, notamment chez Sam Bankman-Fried, qui a connu les déboires qu'on sait dernièrement.
Le patron de FTX,
mais
effectivement,
aussi Elon Musk,
qui a été condamné.
William McCaskill, qui se retrouve avec une fondation avec plus de 130 millions de donations. Donc il faut voir un jeune professeur philosophe né en 1987 qui se retrouve avec une fondation de 130 millions. Je ne sais pas ce qu'en aurait pensé Emmanuel Kant, mais en tout cas ça aurait été sûrement ébouriffant pour lui. Et ce qui est intéressant, c'est que McCaskill, il développe vraiment une philosophie utilitariste ou néo-utilitariste, c'est-à-dire que sa question, c'est de se demander comment on va pouvoir organiser le monde pour le bien du plus grand nombre. Mm. Mais sauf que cette question, il la déporte d'une certaine façon. Il s'intéresse au futur et souvent à des très longue période. C'est-à-dire que McCaskill, il fait toujours des calculs probabilistes par rapport à l'avenir et est-ce qu'il peut être sauvé comme potentiel humain ? C'est sa question. Et du coup, là où je crois qu'on peut être, où on a besoin d'être attentif, c'est qu'en fait, sa logique, c'est de dire l'avenir est devant nous, l'humanité vaut par ses inventions, et ce qu'il faut sauver à tout prix, c'est ce surplus de création dans le long terme. Mais du coup, on ne peut pas le faire avec la politique, on ne peut pas le faire avec les nouvelles générations parce qu'elles n'ont pas le droit de vote, les politiques ne sont pas assez visionnaires, donc comment on va le faire ? On va le faire avec des entrepreneurs, des instituts, des gens qui vont capitaliser et qui vont pouvoir choisir les bonnes options et développer les bonnes stratégies. Mais quand on fait ça, on s'aperçoit, on se retrouve avec une configuration avec très peu de personnes, souvent qui sont très très homogènes,
d'un point de vue social et complètement élitiste en fait,
et qui vont avoir un poids très très important sur l'évolution des choses sans qu'il y ait du tout de débat démocratique.
En gros, si je résume, on a une sorte de minorité de personnes qui a une sorte de puissance, un capital à la fois culturel, monétaire, qui est censé pouvoir savoir mieux que les autres comment l'avenir doit se porter pour qu'on vive tous dans leur meilleur des mondes.
Bien sûr, et puis la technologie, c'est pas un fait de nature, mais dans la Silicon Valley, c'est une prophétie autolarisatrice. Mmh. C'est-à-dire que si certains font des choix d'infrastructures très très lourdes qui deviennent l'infrastructure dominante et le standard à l'échelle internationale et qui concerne la moitié de la population, bah, évidemment, ça va devenir notre avenir commun.
Blaise Mao.
Oui, je voulais apporter un complément. On a fait une enquête sur le long-termisme à lire sur le site d'Uzbek Erika où on interroge Elisabeth Finneran-Burns, qui est aussi une chercheuse qui connaît bien le sujet, et elle dit qu'il faut se rendre compte que c'est ce mouvement-là, et c'est un peu le comble de l'orgueil. Elle dit, prends l'exemple de Louis XIV, elle dit, est-ce que vous pensez que Louis XIV aurait pu avoir la moindre idée de ce à quoi ressemblerait le monde en 2023 ? Et là, on parle de gens qui essaient d'imaginer et de se projeter, avec une vision en plus extrêmement réductrice et ambivalente, sur ce à quoi va ressembler le monde dans plusieurs siècles. Hein. On est à l'échelle du très 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 long terme. Ils réfléchissent, les long-termistes, à des scénarios où l'humanité va être composée de milliards d'êtres humains, potentiellement. C'est une projection très sérieuse. Donc c'est intéressant de voir l'aspect complètement démentiel, démesuré de leur pensée. Et aussi, ce qui n'est pas problématique sur le plan moral en soi, on avait travaillé il y a 2 ans sur la question des bons ancêtres, c'était le terme qu'utilisait Julie, qui est aussi le titre d'un livre passionnant d'un philosophe qui s'appelle Roman Kirchnerich, qui est un anglo-australien, et lui qui a une lecture pas du tout technosolutionniste de cette pensée long-termiste. Ouais. Il dit il faut réfléchir au nom des générations futures, c'est presque un devoir moral, mais on peut le faire en enlevant tout ce côté pompier pyromane qu'on a chez Elon Musk et compagnie, et en ayant une lecture beaucoup plus apaisée, en allant chercher d'autres bons ancêtres dans l'histoire. Oui, c'est l'exemple ça, du type Baldaretti qui a construit les égouts de Londres, il prend l'exemple de Octavia Butler dont on avait parlé dans cette émission, l'écrivaine de science-fiction.
Est-ce que Elon Musk en est cet exemple-là, lui, qui veut nous emmener sur Mars et donc peut-être imaginer que les générations futures puissent aller sur cette nouvelle planète tout en adoptant une politique de la Terre brûlée aussi d'une certaine manière ici? C'est une question, Julie, mais déjà vous souhaitiez réagir.
Voilà, c'est là que je fais la distinction donc, entre ce nouveau courant long-termiste et puis cette pensée sur le long terme qui existe dans la région de San Francisco depuis longtemps. Et je reviens encore une fois à Stuart Brand qui a cofondé en 1996 la Long Now Foundation dont je fais partie en tant que chercheuse également, mais mes travaux restent...
Ah, vous êtes impliquée alors.
Oui, voilà. Implications dans le sujet, mais tout en étant indépendant dans ma recherche. Mais voilà, eux, la distinction, ça va être d'apporter une pensée philosophique et avec des projets un petit peu fous, bien sûr, la construction d'une horloge qui va fonctionner pendant 10 000 ans, qui est en train d'être construite dans le Texas, mais avec cette logique voilà, d'être de bons ancêtres.
Justement, vous avez le sens de timing, et c'est normal lorsqu'on parle d'horloge, puisque l'horloge du long maintenant par Stuart Brand, c'est tout de suite.
L'horloge est une œuvre d'art qui est déjà l'expression d'une pensée à long terme. L'horloge est en quelque sorte une provocation. Est-il possible que nous existions encore pendant 10 000 ans ? Et s'il y avait une guerre ? Ou si un astéroïde frappait la Terre et qu'il y avait un hiver nucléaire ? Même dire « et si » commence à faire ce que l'horloge est censée faire.
Voilà, on a justement... Il y a un temps presque suspendu quand on voyait cette horloge du long maintenant qui sonne. Jeff Bezos y a investi beaucoup de millions de dollars pour reprendre justement ce projet, pour construire cette horloge monumentale au Texas,
ouais,
je crois.
Dans l'ouest du Texas, ouais, sur ses terres.
J'avais eu des nouvelles de cette horloge vers 2018, mais on en est où maintenant? Je crois que c'était le début
du
chantier.
Elle est en train d'être terminée, donc la fin ou le début approche. Et pour revenir à cette question du transhumanisme, cette horloge, moi, je la vois comme un monument, bon, bien sûr, transmis aux générations futures, et comme un moyen, comme un outil transhumaniste, d'une certaine manière, où l'être humain va pouvoir perdurer à travers cet objet. Et les fondateurs, donc on a bon, bien sûr Brand, on a Brian Eno, on a Danny Hillis qui est l'ingénieur principal. Et donc là, c'est très, très drôle d'une certaine manière, parce que Hillis, il a conçu les Thinking Machines dans les années 80, qui étaient des ordinateurs parallèles parmi les plus rapides au monde à l'époque. Et maintenant, il s'intéresse, enfin, il construit l'horloge la plus lente au monde. Donc, on a ce parallèle assez intéressant ici. Et cet objet, donc, de transmission avec un but.
Alors là, c'est du long-termisme ou c'est du...
C'est de la pensée sur le long terme.
C'est de la pensée sur le long terme, même si on a Jeff Bezos qui est derrière.
Là, c'est un petit peu plus litigieux, effectivement.
Ah, on est entre le penser sur le long terme et le long terme.
Oui, avec une récupération, on pourrait dire, de la vallée hein, sur cet objet.
Justement, cette idée de complexité, de cette frontière tenue entre une idée originelle, sa récupération, son instrumentalisation. Olivier Alexandre, on le sent hein, d'ailleurs un petit peu ça dans votre ouvrage, ces points de tension, puisqu'on arrive bientôt à la fin de cette émission. Comment on pourrait justement arriver à faire cette synthèse de cet esprit, puisque c'était le terme de l'émission de la Silicon Valley, on a bien vu, il est multiple, on a quand même repéré ses fondements originaux. Cet esprit-là en 2023, enfin celui que vous avez côtoyé ces quelques années, comment le résumer ?
Ce qui est très déroutant, je pense, quand on est européen et français, et notamment un intellectuel, c'est d'arriver à comprendre que dans la Silicon Valley, l'esprit et la philosophie, c'est une action. Et je suppose que s'il y a des philosophes qui nous écoutent, ils doivent être extrêmement frustrés et se dire mais pourquoi pas moi ? Pourquoi je n'ai pas été élu d'Elon Musk ? Ce qui est intéressant avec le long-termisme, c'est vraiment une pensée qui est soluble dans la tech. Un des prémices de McCaskill, c'est de dire avec la révolution industrielle, on a connu des innovations croissantes, mais l'éthique n'a pas avancé. Bon, il s'assoit sur 200 années de philosophie morale, mais qui le rendent, cette occultation, qui le rendent lisible et compréhensible par des techies. Et ce qui explique l'écho, c'est-à-dire que quand on dit McCaskill, il a des raisonnements probabilistes, il a des raisonnements quantifiés, il a des raisonnements qui commencent aujourd'hui, d'une certaine façon, et qui pensent le très très long terme. Du coup, on a l'impression de pouvoir saisir, d'une certaine façon, la pensée comme on peut saisir une technologie, et surtout, on a la capacité de saisir une pensée pour en faire des outils. Et ça, c'est la très grande différence avec l'Europe, mais aussi avec la côte Est, et c'est la très très grande force de la Silicon Valley, ce qui implique pour nous de faire le chemin inverse et de passer de la machine à la philosophie.
C'est très intéressant puisqu'on est, on parle toujours de dématérialisation lorsqu'on parle du monde numérique, et là vous nous proposez une matérialisation finalement de la pensée qui pour nous est une idée abstraite et qui se concrétise finalement en produits et en projets. Merci en tout cas pour ce point sur le long-termisme. Je pense qu'on va pas attendre très longtemps avant d'en reparler car on voit que c'est bien le mouvement en vogue. Merci à Blaise Mahou de nous avoir accompagnés pendant cette émission. Je rappelle donc ce numéro 12 Bekirika, les nouvelles routes de la foi, où il y a quantité d'histoires à découvrir et un autre dossier sur la nuit. Je vous encourage à aller le suivre. Merci à Julie Montméja. On attend donc vos travaux et votre prochain livre. Et Olivier Alexandre, il est sorti ce livre. Il s'appelle La Tech, quand la Silicon Valley refait le monde. Un livre très riche, très dense, où on peut vraiment, en un peu plus d'une heure, arriver à mieux comprendre ce territoire multiple et à multiples facettes qu'est celui de la Silicon Valley. Le meilleur des mondes, c'est terminé. Je remercie à la préparation de cette émission Juliette Deveau, accompagné d'Héloïse Robert. À la réalisation ce soir, c'était Jan Cherkefos. À la technique, Antoine Tropez, accompagné par Florent Boujon. Et à la technique vidéo, c'était Nicolas Delmas. Le meilleur des mondes, c'est terminé.